Georges Baume. La Sérane. Chapitre 1. Rose, ses parents étant morts dans la plaine, grandissait seule, avec son grand-père Cabrol, sur le mont rocailleux de la Sérane, au nœud des Cévennes. Elle ne connaissait pas même le village de Casillac, où le pâtre descendait une fois par semaine vendre quelques bêtes. Celui-ci, farouche, déclarait à ses 95 ans que pour durer sur la terre, il ne faut s'embarrasser ni de fatigue ni de peine. Aussi se gardait-il d'amener Rose parmi les paysans envieux et rudes. Sa haute taille ne pliait pas encore, ses mains crevassées ne tremblaient guère lorsqu'il ravaudait sa houppelande ou ses guêtes de cuir. Son visage long, à barbiche de bouc, reluisait de santé. Autour de lui, la nature restait immuable, sa sérane inculte, dont le sommet, pareil à l'échine pelée d'un monstre, resplendissait dans le soleil. On le craignait un peu à cause de la vertu fatidique que semblait avoir son être défiant les saisons. Rose, dans la solitude, n'avait appris que les paroles nécessaires à la conduite du troupeau. Parfois, elle s'étonnait de voir sa figure jeune et belle au creux d'une source. Alors, en jouant, elle dénouait sa chevelure blonde. Elle regardait se lever ses bras comme des rameaux. Ses yeux bleus brillaient davantage sur le lit de cailloux. Un jour, elle grimpait avec ses bêtes entre des rochers, hors des sentiers d'habitude, lorsque lui apparut une toiture de tuiles surmontée d'un clocheton que vêtait la mousse. C'était un de ces ermitages délaissés qu'on rencontre de loin en loin dans les Cévennes. Elle examina ses murs troués comme un habit de pauvre, puis, ayant poussé la porte, tandis que ses moutons se couchaient sur le gravier de la terrasse, elle s'avança. Sur le plâtre écaillé des murailles était accroché un tableau où elle reconnut, à l'ombre des chênes de la Sérane, des moutons énormes qu'un pâtre conduisait. Au fond de la masure, sur un autel formé de rocs superposés, s'érigeait une croix fruste, auprès de laquelle se tenait un agneau menu taillé dans quelques racines. Rose sourit devant cette chose d'art ingénu, découpée avec tendresse par les doigts d'un berger de sa race. Mais la croix, qu'était-ce? Que signifiait l'union de ses branches au geste fraternel? Elle allait la toucher, lorsque, prise d'une crainte ineffable, elle demeura immobile, confuse. Au contraire, elle osa toucher l'agneau et même l'effleurer de ses lèvres. Ensuite, elle sortit en courbant le front. Le silence de ces murs, qui avaient traversé les siècles, entendu tant de prières, l'impressionnait. Le soir était solennel parmi les bois et les rochers, dans le rayonnement de la lumière grise qui montait, en mourant, vers les nues. L'ancêtre, devant la porte de sa hutte, contemplait cette fin du jour. Sa houppelande sur l'épaule, il levait le front, sans penser peut-être. Au bruit du troupeau, il se détourna. Rose accourait, agile, triomphante d'annoncer à l'aïeul sa découverte. « Dis-moi, » s'écria-t-elle, « quelle est cette grange là-bas, dans les rochers ?»« Curieuse, que vas-tu chercher si loin? Allons, pour que tu ne sois plus tourmentée, je t'expliquerai cela tout à l'heure. » Ils remisèrent les bêtes dans l'étable. Bientôt, pendant qu'ils mangeaient, l'ancêtre parla. « Ne t'inquiète pas, ma fille, de cette grange. Elle est pour les gens de Casillac. Tous les 5 ou 6 ans, il y a des cultivateurs qui montent dans nos parages pour voir le ciel de plus près et l'implorer. »« L'implorer ? » ?»« Oui, ils le connaissent moins que nous. Quelle grâce lui demande-t-il ? Ma foi, je n'en sais rien. » Jamais Cabrol n'avait révélé à l'enfant de 15 ans les vérités de la religion qu'on enseigne aux plus petits. Elle n'avait appris le nom de Dieu que parce qu'il le proférait quelquefois en ses moments d'ennui. Ce soir, Rose se mit à réfléchir devant ces choses du ciel qui lui donnaient le désir de savoir davantage. Et, passant une main sur son front, elle regarda par la porte l'espace immobile, la clarté blanche qui fuyait la montagne. Le vieux pâtre se taisait. Il aimait jalousement sa fille, il redoutait que l'idée de la mort, une inquiétude du monde et de l'au-delà, ne ternît son âme fraîche. « Là-bas, dans la vallée, dit-elle d'une voix tremblante, la vie doit être plus douce si l'on ne vit pas seul. » À ces mots, le pâtre frémit d'une colère. « Tais-toi, mon Dieu, tais-toi !» Rose courba la tête, aussi honteuse que si elle eût blasphémé. Il lui était donc défendu de penser aux créatures humaines, ses semblables. Le tourment de connaître la vie, plus douce peut-être, des gens qui cultivent la terre ensemble, l'agita dans son sommeil. Chapitre 2. Quelques jours après Pâques, une famille de Casillacs monta sur la Serranne. Là-haut, sur le sommet, se dressait une croix de pierre qui jamais n'avait attiré l'attention de Rose, parce qu'ayant perdu ses bras, elle semblait sans signification. Aujourd'hui, les paysans qui se rendaient à la croix du Gergue riaient, s'amusaient de broncher aux cailloux. Rose, sans être vue, les observa patiemment, avec un plaisir mêlé de crainte. Ces êtres du monde lui paraissaient vieillis et fatigués, l'un d'eux surtout, un homme à face rasée qui était vêtu d'une robe noire, le prêtre. Rose appréhenda pour eux quelques chutes, d'autant plus qu'ils portaient un enfant dans une de leurs corbeilles. Auprès de la croix du Gergue, les paysans mangeaient déjà le pain blanc, le gigot garni d'ail qu'ils avaient, la veille, rôti à la broche. Ils se félicitaient de boire l'eau de la cime qu'alimente la neige, en hiver, lorsque le chef de la famille trouva la citerne tarie. Chacun se désola à cause de l'enfant qu'on devait, pour ainsi dire, baptiser une seconde fois en le baignant dans cette eau merveilleuse. Soudain le prêtre, un brave fils de chevrier qui ne parlait guère qu'en patois du pays, découvrit Rose dans le voisinage. Il comprit que ce devait être la filleule du pâtre et l'appela. Rose, abandonnant son troupeau, tant elle était curieuse, eut au fait de grimper jusqu'à la cime. « Dis-moi, il y a de l'eau sur ta serranne? Veux-tu nous en donner une cruche ?»« Oui. » Les bras ballants, Rose hochait la tête. Elle observait avec émotion ses gens paisibles autour d'une nappe blanche, l'enfant joufflu qui reposait dans une corbeille, surtout le prêtre dont la robe noire l'effarouchait un peu. Elle était si plaisante dans sa jupe de bure, où se devinait un corps agile, choyé par l'air des montagnes, qu'elle inspirait de la joie et de la pureté. Elle voulut, par gentillesse, baiser la main de l'enfant, et l'enfant, s'étant remué sous sa caresse, ouvrit les yeux, fit un signe vers le soleil qui lui semblait nouveau. Mais elle eut un frisson de méfiance lorsque le prêtre, la touchant à l'épaule, la réveilla de son extase. Elle partit vers le ruisseau. Elle revint avec la cruche pleine. « Petite, lui dit le prêtre, tu vas rester avec nous. Ton troupeau ne risque rien, on le voit d'ici. » « Oh non, père me gronderait !»« Grâce à moi, ton aïeul ne te grondera pas. »« Tu sais bien qui je suis. Ton aïeul t'instruit, je pense, sur les vérités de la religion et de l'Église. » Rose tressaillit au fond du cœur. Aussi franche que l'eau qui gazouille en suivant la pente des coteaux, elle répondit « Père ne mentionne jamais ces choses. »« Est-ce possible, mon Dieu? Quel mécréant ! Le jour du prochain marché, je lui parlerai. » Oui ? » Rose regardait avec admiration la nappe blanche, les ustensiles de cuisine de ces êtres cossus qui avaient aux doigts et aux oreilles des boucles d'argent et d'or. Elle mangea de bon appétit ces viandes que jamais elle n'avait goûtées, le pain blanc sorti du four avant l'aube, le vin qui était moins sucré que le sang des mûres. Ensuite, elle raconta sa vie auprès de l'ancêtre, sa vie de fée sauvage, dans la Serranne, où jamais elle n'avait entendu les noms des saints et du maître du ciel. Avec l'eau du ruisseau, on baigna l'enfant aux mains et aux lèvres. L'enfant, qui depuis sa naissance languissait, ouvrit une seconde fois les yeux dans les bras de Rose, tendit les mains vers le visage blond de la fée bienfaisante, comme pour l'aimer le premier au monde. Le prêtre disait tout bas les prières. Les paysans, sous le vaste ciel de la solitude, s'étaient prosternés. On vit sourire l'enfant. Ce fut un miracle. « Nous te remercions, dit le prêtre à Rose. Je veux que dimanche tu viennes à l'église. Je parlerai à ton aïeul. Je veux bien, moi. » Rose ne comprenait rien, sinon qu'on l'aimait et qu'elle se plaisait avec les êtres de sa race. « Laissez-moi l'embrasser, reprit-elle. Elle étreignit l'enfant, le baisant encore, ainsi qu'une sœur, plusieurs fois au visage. Puis, d'un saut de chèvre, elle partit, disparut parmi les pierres, vers son troupeau. Chapitre 3. Rose, chaque dimanche, descendait à l'église. Après les offices, elle assistait aux leçons du catéchisme que le prêtre enseigne fréquemment dans les campagnes à des enfants âgés qui, par leur espièglerie, se sont attardés dans leurs études. L'ancêtre était fier des amitiés que Rose provoquait à Cazillac. Elle devenait toujours plus belle. Ne lui avait-il pas acheté une robe bleue, des souliers, une résille blanche qui protégeait ses cheveux couleur de miel? Au catéchisme, elle avait pour voisin le fils d'un fermier aisé, Roch Lebrun, qui l'amusait en lui contant ses vagabondages dans la vallée. Bien qu'adolescents tous deux, ils étaient ingénus d'esprit et d'âme. Elle lui contait aussi sa vie libre, hors des lois du monde, où jamais elle n'avait entendu parler de l'argent. Il donnait, pour la sagesse, l'exemple aux autres élèves. Auprès de Rose, le vagabond de Naguère éprouvait un apaisement à sa nature ardente. Il tâchait de ressembler à la fée de la Sérane, dont chacun louait la modestie. Maintenant, il travaillait la semaine et ne rôdait plus. Si, parfois, il s'interrompait à l'ouvrage, c'était pour rêver à son amie, avec le désir d'aller la surprendre là-haut dans la montagne. Bientôt, le vieux Cabrol soupçonna que sa fille lui échappait. Un soir, en remontant de l'église, il interrogea. « Dis-moi, tu es bien d'accord avec ton camarade? Qu'est-ce qu'il te raconte ?»«
Je ne me rappelle plus, ma foi !»
Elle riait, l'étourdie, pendant que le pâtre, dans sa confusion, maugréait. Il poursuivit. « Écoute, on s'imagine toujours que je vais mourir. Toi, te voici à l'âge des fiançailles, tu comprends ? On voudrait te séparer de moi après que tu auras fait ta communion. »
« Eh bien, quel malheur y aurait-il là, après tout ?»«
Quel malheur ? Oh ! Oh !» Cabrol frappa sur le sol de son bâton avec une telle fureur qu'il faillit choir sur les cailloux. « Eh bien, sais-tu, Rose, je ne te donnerai jamais à qui que ce soit. Tu es à moi !» Rose épia l'ancêtre en dessous avec un ressentiment malicieux. Elle se sentit aimer davantage le garçon de son âge qui habitait dans l'opulente vallée, sur la route, une des plus hautes maisons de Cazillac. Le vent soufflait avec force au ras du coteau. Cabrol s'arrêtait souvent pour reprendre haleine. L'ascension de la Sérane lui était pénible ce soir. Pendant les mois d'hiver, Rose ne descendit plus au village à cause de la neige qui comblait les chemins. Roch, de même, languit dans sa maison. Mais, au beau jour, lorsque la Sérane remonta parmi les pierres grises, son visage paré de fleurs et de feuillets, ce fut une fête pour la famille des paysans cossus dont l'enfant avait commencé de guérir à l'ombre de la croix du Gergue. Ce fut une fête, surtout pour Roch Lebrun, de revoir la fille de l'ancêtre qui parut plus grande encore, plus femme. Ils reprirent ensemble les leçons du catéchisme. Et un dimanche de juin, que le peuple entier de Cazillac emplissait l'église, dans la clarté des cierges et des lustres, on les vit tous deux, sur les pas l'un de l'autre, s'approcher de la sainte table. L'ancêtre, tout courbé dans sa houppelande, s'était blotti contre un pilier, à l'écart du monde. Les yeux fixes, il contemplait sa pastour qui, dans sa robe blanche, resplendissait comme une étoile sous son voile couronné de roses blanches. À la sortie de la messe, des gens sur la place le complimentèrent. « Ah, ce vieux Cabrol, il a tout de même la plus jolie fille de la Sérane. Mais lui, il ne mourra jamais. »«
Je pense bien que non, » ricana-t-il.
S'étant redressé dans sa longue taille, il emmena, jaloux, sa pastoure adorable, afin que nul ne pût l'offenser d'une parole ou d'un regard. Rose eut grande douleur de repartir si tôt, parce que Roch Lebrun penserait peut-être qu'elle avait voulu le fuir. De crainte d'être grondée, elle ne se plaignit point. Chapitre 4. Désormais, le dimanche, Cabrol et Rose descendirent régulièrement à l'église de Cazillac. Le vieux pâtre, têtu, farouche, ne quittait pas sa filleule. Celle-ci n'apercevait Roch que de loin, parmi le peuple. Ils se regardaient avec mélancolie, échangeaient des sourires. Les paysans comprenaient que Rose souffrait de la jalousie étrange de l'aïeul. Pourtant, elle avait raison de se soumettre. Cabrol ne pourrait pas toujours empêcher le destin. Tandis que Rose croissait définitivement en force et en beauté, ayant déjà la pensée de Roch
une coquetterie de demoiselle, et sachant, au miroir des sources, ordonner ses blonds cheveux sur le front ou dans la résille, l'ancêtre se courbait plus bas, succombait enfin à la décrépitude. La nuit, il ne dormait plus de ses sommeils solides. Assis tout le jour devant la hutte, son vieux chien à ses pieds, il contemplait la Serranne. Son plaisir suprême était d'observer, à travers les arbres, les bêtes que Rose conduisait en chantant. Une après-midi, il dormait à l'ombre de la hutte lorsqu'il fut brusquement réveillé. Il eut peur. Roque et son père se dressaient devant lui, vêtus de dimanche, dans la solitude. Ils étaient venus, résolus et graves, glorieux de leur richesse de fermier, demander au vieux pâtre le consentement de célébrer les fiançailles de Roque et de Rose. Mais l'ancêtre se mit à rire d'un éclat, ainsi qu'un fou. Puis il leva son bâton, criant avec colère « Me prenez-vous pour un pauvre ? Eh, je me moque de vos richesses. Rose est à moi, je l'ai élevée, je la garde. Tant que je vivrai, nul ne la touchera. » À cause de son âge, les deux paysans se continrent de lui répliquer avec le même orgueil. Ils essayèrent de l'amadouer en lui disant leur probité, leurs habitudes de travail, en lui assurant que Rose, dans leur maison, serait heureuse. Cabrol ne voulut rien entendre. Sa colère augmentait à mesure que les deux hommes insistaient. Alors ils repartirent tristement, sans courage, souhaitant presque la mort à l'ancêtre de la Serranne, parce qu'il n'aimait son enfant que pour lui-même. Le soir, quand Rose rentra, Cabrol s'en fut avec impatience la rejoindre à l'étable. Là, dans l'ombre laide, au milieu des bêtes étonnées, il interpella. « Dis, tu avais concerté tes fiançailles avec Roque et je n'en savais rien. Voilà déjà que tu dissimules tes idées. »« Je ne sais pas mentir, » dit-elle en rougissant sous l'injure. « Allons, ne te trouble pas. Tout ça, vois-tu, nous vivions bien tranquilles et maintenant, depuis que tu descends au village, on nous tracasse. Le diable emporte tout ce monde. » « Est-ce que tu l'aimes, toi, la vallée de Cazillac ?»« Mais oui !»« Ah, mon Dieu, tu n'aimes donc pas la Serranne ? Tu voudrais donc me laisser seule ?»« Oh ! Oui, il te tarde que je meure pour aller te fiancer là-bas. Si tu me quittais, je mourrais. Tu ne le veux pas, je pense. »« Non, père !» Elle baissa le front, honteuse des soupçons du vieux pâtre, à qui pourtant elle se sacrifiait. Son cœur qui souffrait lui semblait pesant. Elle y porta ses mains comme pour le soutenir. Depuis quelques mois, chaque matin, elle se rendait à la chapelle de l'Ermitage revoir l'agneau de bois et, sous la croix ancienne, offrir le vœu que son ami Roque eut, comme elle, la force de croire au destin. Le dimanche, à l'église, elle le rencontrait. C'était pour eux une joie bien précieuse de prier ensemble dans l'ombre que baignait la lumière des lustres et de pouvoir un moment, à la sortie de la messe, se regarder. Ils s'estimaient dévoués l'un à l'autre dans l'émotion de leur sacrifice et ils sentaient autour d'eux l'attention bienveillante du monde. En décembre, la neige couvrit la Serranne d'une croûte épaisse. Ce fut un pays morne et sans écho. Cabrol eût souhaité que l'hiver durât éternellement. Lorsque la neige fondit sous le ciel pluvieux de mars, il ne parla point de redescendre au village. Rose, par fierté, par compassion aussi, n'osa point réclamer, car elle s'alarmait de voir le vieux maintenant considérer toujours le sol à ses pieds et ne plus sortir de la hutte, indifférente au soleil et aux plantes, aux bêtes tant aimées, à sa filleule même. Alors un jour, Roque monta là-haut. Dès que Rose l'aperçut, elle grimpa vers la cime du gergue en poussant d'un cri de frayeur. Jusqu'au soir, elle erra par les pierres sous les bois reverdis. Roque, qui ne comprenait plus, voulut dans sa détresse quitter le pays, aller loin, loin, chercher une fille plus belle. Il parcourut des plaines riches, vit des femmes parées, des filles adroites et rieuses. Aucune ne ressemblait à Rose. À mesure qu'il descendait vers la mer, vers les plaines plus douces et plus hospitalières, son âme s'apaisait, se réconfortait des désirs de son âge. Une fois, pendant l'ouvrage, il se mit à chanter sans savoir. À l'automne, les travaux de la campagne étant achevés, Roque Lebrun retourna vers sa Cévenne, vers son foyer. Le matin, qu'il reconnut à l'horizon, dans l'aurore étincelante, sa patrie dorée par les soleils d'octobre, cette Cérane, où Rose à son tour se désolait sans doute de l'avoir perdue, il leva les bras comme un enfant avec une joie glorieuse, et il marcha, robuste, plein d'espérance. Là-haut, dans la solitude, Rose l'attendait. Il avait foi en elle, de même qu'il croyait en Dieu. Quand la nature aurait fait son œuvre, quand la mort, comme l'hiver, aurait passé sur la hutte du pâtre, il prendrait dans son foyer la fée charmante de la Cérane et il la garderait lui aussi jalousement. Mais il ne pouvait vivre loin d'elle. Ses yeux étaient heureux rien que de regarder la Cérane sacrée où Rose se résignait pieusement à l'ordre de son maître, à l'ordre de son maître et à la volonté du ciel.